jour, Marco, compte à rebours. Tarbourg, une émission de contes, d'histoires, de nouvelles. Et aujourd'hui, la suite de la semaine dernière que vous attendez tous avec impatience, j'en suis sûr. Vous vous rappelez où est-ce qu'on en était ? C'était l'histoire de deux bousiers. Hein, les bousiers, vous connaissez ces scarabées qui poussent des boules de bouse, hein, qui se font des provisions. Et oui, on lit des souvenirs entomologistes de Jean-Henri Fabre. Et c'est passionnant, et c'est passionnant. Alors, on en était où? Eh bien, on en était à la phase où, bon, une bouse était tombée, tous les insectes étaient venus, parmi eux des bousiers, un beau scarabée sacré qui a fait une belle boule. Eh bien, voilà, il prend du temps à la faire, cette boule bien tassée, il est fait pour, et puis après, il la pousse à reculons, hein. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle conte à rebours. En tout cas, lui, le scarabée, il est à rebours. Il pousse avec les pattes de devant, il s'accroche avec les pattes de derrière, et il pousse sa boule à reculons. Il voit pas trop où il va. Il a une idée, on imagine. Et donc, on en était resté à ce moment précis où un scarabée, propriétaire d'une boule qu'il pousse à reculons, se retrouve rejoint par un confrère qui accourt. Et dans quel but? Eh bien, on l'a vu la semaine dernière, dans le but intéressé de le piller si l'occasion se présente. Voyons ce qui va se passer. Appelons-les associés, ces deux bousiers. Bien que ce ne soit pas là le mot propre. Les deux collaborateurs dont l'un s'impose et dont l'autre peut-être n'accepte des offices étrangers que crainte d'un mal pire. La rencontre est d'ailleurs des plus pacifiques. Le bousier propriétaire ne se détourne pas un seul instant de son travail à l'arrivée de l'acolyte. Il continue à pousser. Le nouveau venu semble animer des meilleures intentions et se met incontinent à l'ouvrage. Le mode d'attelage est différent pour chacun des associés, vous imaginez. Le propriétaire occupe la position principale, la place d'honneur. Il pousse à l'arrière de la charge. Les pattes postérieures en haut, la tête en bas. L'acolyte, lui, occupe le devant. Dans une position inverse, la tête en haut, les bras dentés sur la boule, les longues jambes postérieures sur le sol. Entre les deux, la pilule chemine, chassée devant par le premier, attirée à lui par le second. Les efforts du couple ne sont pas toujours bien concordants, d'autant plus que l'aide tourne le dos au chemin à parcourir et que le propriétaire a la vue bornée par la charge. De là, des accidents réitérés, de gros tests culbutes dont on prend gaiement son parti, chacun se ramasse à la hâte et reprend position sans intervertir l'ordre. En pleine, ce mode de charroi ne répond pas à la dépense dynamique, faute de précision dans les mouvements combinés. À lui seul, le scarabée de l'arrière ferait aussi vite et mieux. Aussi, l'acolyte, après avoir donné des preuves de son bon vouloir, au risque de troubler le mécanisme, prend-il le parti de se tenir en repos, sans abandonner, bien entendu, la précieuse pelote qu'il regarde comme déjà sienne. Pelote touchée et pelote acquise. Il ne commettra pas cette imprudence, l'autre le planterait là. Il ramasse donc ses jambes sous le ventre, s'aplatit, s'incruste pour ainsi dire sur la boule et fait corps avec elle. Le tout, pilule et bousier, cramponné à sa surface, roule désormais en bloc sur la poussée du légitime propriétaire. Que la charge lui passe sur le corps, qu'il occupe le dessus, le dessous, le côté et du fardeau roulant, peu lui importe. L'aide tient bon et reste quoi ? Singulier auxiliaire qui se fait carrosser pour avoir sa part de vivre. Mais qu'une rampe ardue se présente et un beau rôle lui revient. Alors, sur la pente pénible, il se met en chef de file, retenant de ses bras dentés la pesante masse, tandis que son confrère prend appui pour hisser la charge un peu plus haut. Ainsi, à deux, par une combinaison d'efforts bien ménagés, celui d'en haut retenant, celui d'en bas poussant, je les ai vus gravir des talus où sans résultat se serait épuisé l'entêtement d'un seul. Mais tous n'ont pas le même zèle en ces moments difficiles. Il s'en trouve qui, sur les pentes où leur concours serait le plus nécessaire, n'ont pas l'air de se douter le moins du monde des difficultés à surmonter. Tandis que le malheureux Sisyphe s'épuise en tentative pour franchir le mauvais pas, l'autre, tranquillement, laisse faire, incrusté sur la boule, avec elle, roulant dans la dégringolade, avec elle, hissé de rechef. Alors ici même, Jean-Henri Fabre, dans ses souvenirs entomologistes, a placé une petite digression que je vous dis. Il dit « J'ai soumis bien des fois deux associés à l'épreuve suivante pour juger de leurs facultés inventives en un grave embarras. Supposons-les en pleine, l'acolyte immobile sur la pelote, l'autre poussant. Avec une longue et forte épingle, sans troubler l'attelage, je cloue au sol la boule qui s'arrête soudain. Le scarabée, non au courant de mes perfidies, croit sans doute quelque obstacle naturel, ornière, racine de chien dent, caillou, barrant le chemin. Il redouble d'efforts, s'escrime de son mieux. Rien ne bouge. Que se passe-t-il donc? Allons voir. Par deux ou trois fois, l'insecte fait le tour de sa pilule, ne découvrant rien qui puisse motiver l'immobilité. Il revient à l'arrière et pousse de nouveau. La boule reste inébranlable. Voyons là-haut, l'insecte y monte. Il n'y trouve que son collègue immobile, car j'avais soin d'enfoncer assez l'épingle pour que la tête disparût dans la masse de la pelote. Il explore tout le dôme et redescend. D'autres poussées sont vigoureusement essayées, en avant, sur les côtés. L'insuccès est le même. Jamais Bouzier, sans doute, ne s'était trouvé en présence d'un pareil problème d'inertie. Voilà le moment, le vrai moment de réclamer de l'aide. Chose d'autant plus aisée que le collègue est là, tout prêt, accroupi sur le dôme. Le scarabée va-t-il le secouer et lui dire quelque chose comme ceci ? « Que fais-tu là, fainéant ? Mais viens donc voir, la mécanique ne marche plus !» Rien ne le prouve, car je vois longtemps le scarabée s'obstiner à ébranler l'inébranlable, à explorer d'ici et de là, par-dessus, par côté, la machine immobilisée, tandis que l'acolyte persiste dans son repos. À la longue, cependant, ce dernier a conscience que quelque chose d'insolite se passe. Il en est averti par les allées et venues inquiètes du confrère et par l'immobilité totale de la pilule. Il descend donc et à son tour examine la chose. L'attelage à deux ne fait pas mieux que l'attelage à un seul. Ceci se complique. Le petit éventail de leurs antennes s'épanouit, se ferme, se rouvre, s'épanouit, se rouvre, s'agite et trahit leur vive préoccupation. Puis, un trait de génie met fin à ses perplexités. Qui sait ce qu'il y a là-dessous ? La pilule est donc explorée par la base et une fouille légère a bientôt mis l'épingle à découvert. Aussitôt, il est reconnu que le nœud de la question est là. Les deux collègues, qui d'ici, qui de là, s'insinuent sous la boule, laquelle glisse d'autant et remonte le long de l'épingle à mesure que s'enfoncent les coins vivants. La mollesse de la matière qui cède en se creusant d'un canal sous la tête du pieux inébranlable permet cette habile manœuvre. Bientôt, la pelote est suspendue à une hauteur égale à l'épaisseur du corps des scarabées. Le reste est plus difficile. Les bousiers, d'abord couchés à plat, se dressent peu à peu sur les jambes, poussant toujours sur le dos. C'est dur à venir, à mesure que les pattes perdent de leur puissance en se redressant davantage, mais enfin, cela vient. Et puis un moment arrive où la poussée avec le dos n'est plus praticable, la hauteur limite étant atteinte. Un dernier moyen reste, mais bien moins favorable au développement de force, tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre de ces postures d'attelage, c'est-à-dire la tête en bas ou bien la tête en haut, l'insecte pousse soit avec les pattes postérieures, soit avec les pattes antérieures. Et finalement, la boule tombe à terre. Si l'épingle, toutefois, n'est pas trop longue, l'éventrement de la pilule par le pieu est tant bien que mal réparé et le charroi, aussitôt, recommence. C'est reparti ! Orienté au hasard, à travers plaines de sable fourré de thym, ornières et talus, les deux scarabées, collègues quelque temps, roulent la pelote et lui donnent ainsi une certaine fermeté de pattes qui est peut-être de leur goût. Tout chemin faisant, un endroit favorable est adopté. Le bousier propriétaire, celui qui s'est maintenu toujours à la place d'honneur à l'arrière de la pilule, celui enfin qui presque à lui seul a fait tous les frais du charroi, se met à l'œuvre pour creuser la salle à manger. Tout à côté de lui est la boule sur laquelle l'acolyte reste cramponné et fait le mort. Le chaperon et les jambes dentées attaquent le sable. Les déblais sont rejetés à reculons par brassées et l'excavation rapidement avance. Bientôt, l'insecte disparaît en entier dans l'antre ébauché. Toutes les fois qu'il revient à ciel ouvert avec sa brassée de déblais, le fouisseur ne manque pas de donner un coup d'œil à sa pelote pour s'informer si tout va bien. De temps à autre, il la rapproche du seuil du terrier, il la palpe et à ce contact, il semble acquérir un redoublement de zèle. L'autre, Sainte-Nitouche, par son immobilité sur la boule, continue à inspirer confiance. Cependant, la salle souterraine s'élargit et s'approfondit. Le fouisseur fait de plus en plus rare rarement des apparitions, retenu qu'il est par l'ampleur des travaux. Le moment est bon. L'endormi se réveille. L'astucieux acolyte décampe, chassant derrière lui la boule avec la prestesse d'un larron qui ne veut pas être pris sur le fait. Cet abus de confiance m'indigne, mais je laisse faire dans l'intérêt de l'histoire. Il me sera toujours temps d'intervenir pour sauvegarder la morale si le dénouement menace de tourner en mal. Le voleur est déjà à quelques mètres de distance. Le volé sort du terrier, regarde et ne trouve plus rien. Coutumier du fait lui-même, sans doute, il sait ce que cela veut dire. Du flair et du regard, la piste est bientôt trouvée. À la hâte, le bousier rejoint le ravisseur. Mais celui-ci, roué comme père, dès qu'il se sent talonné de près, change de mode d'attelage, se met sur ses jambes postérieures et enlace la boule avec ses bras dentés, comme il le fait en ses fonctions d'aide. « Ah, mauvais drôle, j'évente ta mèche. Tu veux alléguer pour excuse que la pilule a roulé sur la pente et que tu t'efforces de la retenir et de la ramener au logis. » Pour moi, témoin impartial de l'affaire, j'affirme que la boule a bien été bien équilibrée à l'entrée du terrier et n'a pas roulé d'elle-même. D'ailleurs, le sol est en plaine. J'affirme t'avoir vu mettre la pelote en mouvement et t'éloigner avec des intentions non équivoques. C'est une tentative de rapte où je ne m'y connais pas. Mon témoignage n'étant pas pris en considération, le propriétaire accueille débonnairement les excuses de l'autre. Et les deux, comme si de rien n'était, ramènent la pilule au terrier. Mais si le voleur a eu le temps de s'éloigner assez, ou s'il parvient à sceller la piste par quelque adroite contre-marche, le mal est irréparable. Après avoir ramassé des vivres sous les feux du soleil, les avoir péniblement voiturés au loin, s'être creusé dans le sable une confortable salle de banquet, et au moment où tout est prêt, quand l'appétit aiguisé par l'exercice ajoute de nouveaux charmes à la perspective de la prochaine bombance, se trouver tout à coup dépossédé par un astucieux collaborateur, c'est, il faut en convenir, un revers de fortune qui ébranlerait plus d'un courage. Le bousier ne se laisse pas abattre par ce mauvais coup du sort. Il se frotte les joues, épanouit les antennes, hume l'air et prend son vol vers le tas prochain pour recommencer à nouveau. J'admire et j'envie cette trempe de caractère. Supposons le scarabée assez heureux pour avoir trouvé un associé fidèle. Ou ce qui est mieux, supposons qu'il n'ait pas rencontré en route de confrère s'invitant lui-même. Le terrier est prêt. C'est une cavité creusée en terrain meuble, habituellement dans le sable, peu profonde, du volume du poing et communiquant au doigt par un court goulot, juste suffisant au passage de la pilule. Aussitôt les vivres emmagasinés, le scarabée s'enferme chez lui en bouchant l'entrée du logis avec des déblais de tenue en réserve dans un coin. La porte close, rien au dehors ne trahit la salle du festin. Et maintenant, vive la joie. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. La table est somptueusement servie. Le plafond tamise les ardeurs du soleil et ne laisse pénétrer qu'une chaleur douce et moite. Le recueillement, l'obscurité, le concert extérieur des grillons, tout favorise les fonctions du ventre. Dans mon illusion, je me suis surpris à écouter aux portes, croyant ouïr pour couplet de table, le fameux morceau de l'opéra de Galatée. Ah, qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de nous. Qui oserait troubler les béatitudes d'un pareil banquet ? Mais le désir d'apprendre est capable de tout. Et cette audace, je l'ai eue. J'inscris ici le résultat de mes violations de domicile. À elle seule, la pilule presque en entier remplit la salle. La somptueuse victuaille s'élève du plancher au plafond. Une étroite galerie la sépare des parois. Là se tiennent les convives. Deux ou plus, un seul très souvent. Le ventre à table, le dos à la muraille. Une fois la place choisie, on ne bouge plus. Toutes les puissances vitales sont absorbées par les facultés digestives. Pas de menus ébats qui feraient perdre une bouchée, pas d'essais dédaigneux qui gaspilleraient les vivres. Tout doit y passer par ordre et religieusement. Allez voir, si recueillis autour de l'ordure, on dirait qu'ils ont conscience de leur rôle d'assainisseur de la terre et qu'ils se livrent avec connaissance de cause à cette merveilleuse chimie qui, de l'immondice, fait la fleur, joie des regards et les litres des scarabées, ornement des pelouses printanières. Pour ce travail transcendant, qui doit faire matière vivante des résidus non utilisés par le cheval et le mouton, malgré la perfection de leur voie digestive, le bousier doit être outillé d'une manière particulière. Et en effet, l'anatomie nous fait admirer la prodigieuse longueur de son intestin, qui, plié et replié sur lui-même, lentement élabore les matériaux en ses circuits multipliés et les épuise jusqu'au dernier atome utilisable. D'où l'estomac de l'herbivore n'a rien pu retirer ce puissant alambic extrait des richesses qui, par une simple retouche, deviennent armure d'ébène chez le scarabée sacré, cuirasse d'or et de rubis chez d'autres bousiers. Or, cette admirable métamorphose de l'ordure doit s'accomplir dans le plus bref délai. La salubrité générale l'exige. Aussi le scarabée est-il doué d'une puissance digestive peut-être sans exemple ailleurs. Une fois en loge avec des vivres, jour et nuit, il ne cesse de manger et de digérer jusqu'à ce que les provisions soient épuisées. La preuve en est palpable. Ouvrons la cellule où le bousier s'est retiré de ce monde. À toute heure du jour, nous trouverons l'insecte attablé et derrière lui, appendu encore à l'animal, un cordon continu grossièrement enroulé à la façon d'un tas de câbles. Sans explication délicate à donner, aisément on devine ce que le dit cordon représente. La volumineuse boule passe bouchée par bouchée dans les voies digestives de l'insecte, cède ses principes nutritifs et reparaît du côté opposé, filé en cordon. Eh bien, ce cordon, sans rupture, souvent d'une seule pièce, toujours appendu à l'orifice de la filière, prouve surabondamment, sans autres observations, la continuité de l'acte digestif. Quand les provisions touchent à leur fin, le câble déroulé est d'une longueur étonnante. Cela se mesure par pans. Où trouver le pareil de tel estomac qui, de si triste pitance, afin que rien ne se perde au bilan de la vie, fait régal une semaine des 15 jours durant, sans discontinuer. Toute la pelote passée à la filière, l'ermite reparaît au jour, cherche fortune, trouve, se façonne une nouvelle boule et recommence. Cette vie de liesse dure 1 à 2 mois, de mai à juin. Puis quand viennent les fortes chaleurs aimées des cigales, les scarabées prennent leur quartier d'été et s'enfouissent au frais dans le sol. Ils reparaissent aux premières pluies d'automne. Moins nombreux, moins actifs qu'au printemps, mais occupés alors apparemment de l'œuvre capitale, de l'avenir de leur race. Compte à rebours, c'est fini aujourd'hui. Hein, le bousier a fait sa boule et il l'a mangé. Et il est reparti à la recherche d'une autre et la vie continue. Puissent les insectes continuer à vivre heureux sur cette terre. Et pour ça, pensons à rapidement en finir avec les insecticides, les pesticides et toutes les poisons que nous permettons de rejeter sans penser que notre vie même tient à ces bestioles-là. C'était Marco, compte à rebours. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Thank you.
Thank you.